au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir à l'antenne de Canal Académie un grand monsieur, le président Jean-Robert Pitt, président de la Sorbonne, la plus prestigieuse université française. Depuis le 28 mai 2003, il préside l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, qui a obtenu le 16e rang pour les meilleures universités au niveau mondial. J'ajoute en plus que Jean-Robert Pitt est un homme original, auteur de nombreux ouvrages, Histoire du paysage français, prix Jean Santeny, et il se sent bien ici, prix de l'Académie française 1983, Terre de Castanide, Hommes et paysages du Châtaignier, 1986, sujet extrêmement intéressant, Gastronomie française, Histoire et géographie d'une passion, 1991. J'ajouterai encore les derniers ouvrages du président, Philippe Lamour, 2002, Le vin et le divin, merveilleux livre, 2004, Bordeaux et Bourgogne, passion rivale, livre formidable pour tous ceux qui aiment l'œnologie et le vin. Jeune, on vous ment, alors ça c'est du solide, 2006. Et j'ajouterai Stop à l'arnaque du bac, 2007, un livre tout à fait remarquable. Alors, cher président, nous sommes heureux de vous accueillir ici à Canal Académie. Vous venez de réaliser un livre que on aurait pu souhaiter voir avant, parce qu'évidemment, la dénonciation est assez étonnante. Alors, il suffit de prendre la table des matières et poursuivre une radiographie absolument étonnante de cette question du bac, de ces manipulations sur ce que vous appelez l'arnaque du bac. Alors, je rappelle Jean-Robert Pitt, Stop, c'est le titre, Stop à l'arnaque du bac aux éditions O-Éditions 2007. Juste, je prendrai, après l'introduction, je citerai la première partie et la dernière partie. Première partie pour nos auditeurs, en France et dans le monde, nos très nombreux auditeurs dans le monde. « Mensonge à tous les étages » pour la première partie, « Manipulation en série »,« Pression sur le bac »,« Des bacheliers presque illettrés, une culture littéraire qui s'efface »,« Inégalité en cascade ». Donc vous voyez, c'est une radiographie incroyable. Et la sixième partie, parce que après avoir démonté, j'ai pas dit démoli, démonté cette question du bac, sixième partie, « Pour sauver » qui s'intitule « Pour sauver le bac, changeons-le au plus vite ». 1. Rendre leur pouvoir aux enseignants. 2. Pour une sélection juste et transparente à l'université. Et 3. Donner à chacun sa chance. Président, ça sera une première question très générale. Votre démonstration est implacable.
Elle est un peu sévère et un peu dure parce que les Français ne sont pas habitués à regarder ce genre de vérité en face. Ceux qui regardent ça de l'étranger, regardent la France de près, sont extrêmement surpris de voir notre système éducatif. Les responsables d'entreprises qui embauchent beaucoup de jeunes ne se posent pas trop la question parce qu'ils trouvent assez facilement sur le marché des jeunes de qualité qui passent par les systèmes sélectifs. Et une majorité, malheureusement, de l'opinion qui devrait être informée en France ne sait pas que notre système d'enseignement supérieur, ou ne sait pas assez, notre système d'enseignement supérieur est à deux vitesses et que la grosse majorité des jeunes bacheliers ayant des bacs dévalorisés vont dans les systèmes non sélectifs dont ils sont éliminés très rapidement, avec beaucoup de difficultés à trouver des débouchés. Et ça, il faut le dire, je le répète depuis longtemps, depuis que je suis dans le milieu universitaire, mais plus particulièrement depuis que j'exerce les fonctions de président, parce que c'est un crève-cœur pour nous de pratiquer la sélection par l'échec, qui est ce qu'il y a de plus dévalorisant, démoralisant pour les étudiants, pour les familles et pour la société française. Et c'est un gâchis d'argent public considérable.
C'est impressionnant, en effet, de montrer que toutes ces jeunes issus des milieux bourgeois, dans les années, en mai 1968, ont, je dirais, d'une certaine façon, fait exploser un peu le système.
Mais ils ont cassé leurs jouets,
tout simplement. Ils ont cassé leurs jouets, tout à fait. Et en même temps, et aujourd'hui, eh bien, au fond, ceux qui sont pénalisés, ce sont justement ces jeunes qui viennent des milieux beaucoup moins aisés. Et c'est quand même quelque chose d'assez affolant. Alors, j'ajouterai aussi la page 31, autour de, il y a des pages fantastiques, je veux dire, à la fois d'analyse, de le mot rigueur revient assez souvent. Et page 31, c'est vraiment quelque chose qui revient, je dirais, de façon récurrente dans ce livre tout à fait extraordinaire, je veux dire. C'est le côté, la culture littéraire qui s'efface. Et pour un pays comme le nôtre, si vous voulez, ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. Alors, vous citez quelques exemples qui font rire, bien sûr, à la page 31 ou 32, mais ça ne fait pas rire, finalement, évidemment, quand on y pense. Et puis, alors, à la page 33, vous avez quelque chose aussi qui est très impressionnante, c'est que, et je crois qu'il faut que tous nos amis nous écoutent ce que vous dites là, cher président. Avez-vous remarqué, j'ai bien la page 33 du livre, les personnes qui sont aujourd'hui octogénaires écrivent toutes de la même façon, même quand elles utilisent un bic, on devine encore les pleins et les déliés qu'imposait l'usage de la plume sergent-major. Mais surtout, on ne distingue pas leur origine sociale à travers leur écriture. Ma mère avait ainsi appris à lire et à écrire chez les sœurs de l'école Saint-Joseph, au Pré Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Elle avait quitté l'école à 13 ans, mais elle a toujours conservé une écriture extraordinaire et y accordait beaucoup de prix. Née en 1909, elle était allée à l'école pendant et juste après la Première Guerre mondiale. Sa patronne, qui était de famille plus bourgeoise, avait été à la même école et avait suivi l'enseignement des mêmes institutrices.
Et elles écrivaient de la même façon, au point que le mari de la patronne de ma mère n'était pas content parce qu'il ne savait pas qui avait écrit les petits mots qu'il recevait, si c'était son employé ou son épouse.
C'est voilà. Quand même, quel bel exemple de,
oui,
d'égalité.
Oui, d'égalité au vrai sens du terme, c'est-à-dire d'égalité des chances. Je pense que c'est quand même ça qu'il faudrait essayer de retrouver. Pour moi, ce qui est fondateur de la République et de la vie ensemble dans ce pays, malgré les différences d'origine, les différences de revenus, les différences sociales, c'est qu'il y ait un socle de connaissances en commun qui repose quand même sur la langue, sur la lecture, l'écriture, le langage, et qu'on puisse se comprendre. Actuellement, c'est un petit peu inquiétant. Quand on voit, par exemple, à l'université, que des cours de première année qui sont faits par des professeurs, certes de haut niveau, mais qui font des efforts pour être compréhensibles, ne sont pas compris par les étudiants, par beaucoup d'étudiants, c'est très inquiétant.
Vous rappelez l'exemple de Pierre Brunel.
Pierre Brunel a dû arrêter son cours, malheureusement, un cours il y a 2 ans sur de littérature comparée sur Don Quichotte, que la moitié des étudiants non seulement ne comprenaient pas, alors que c'est quelqu'un qui est lumineux et qui parle un langage simple, qui ne jargonne pas, au point qu'il a dû arrêter son cours pendant plusieurs semaines, parce que c'était un brouhaha constant d'étudiants qui ne sont pas méchants, mais qui s'en moquaient complètement, qui s'en fichaient, et qui n'essayaient même pas de faire un petit effort pour comprendre.
Oui, mais alors là, évidemment, ces jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes pourraient en parler beaucoup, mais nous, leurs parents, les adultes, auraient pu tout de même parfois mieux les encadrer peut-être, et je pense à ce déferlement, sans être hostile du tout, bien loin de là, mais ce déferlement d'Internet au détriment de l'écrit et
je pense qu'il ne faut pas accuser la technique. La technique, c'est comme la voiture, c'est comme l'argent. C'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Donc Internet est un instrument qui peut être magnifique, merveilleux. D'ailleurs, je crois que cette radio n'existerait pas sans Internet. Donc, c'est un très, très bel instrument dont on peut faire le pire usage. Ouais. Mais comme tout, c'est comme l'atome. L'atome, on peut en faire des bombes qui tuent des millions de personnes, et on peut en faire une source d'énergie propre, magnifique et bon marché. Donc, tout, c'est ça.
C'est l'usage.
Ce sont les merveilles de la condition humaine et de la vie de l'homme sur la Terre que d'avoir des choix dans toutes sortes de domaines et de pouvoir faire le bien ou le mal, le meilleur comme le pire, avec le même instrument, avec les mots, par exemple. Ici, on parle beaucoup de mots à l'Académie. On peut tout faire dire aux mots, le meilleur comme le pire. C'est assez bouleversant, je trouve. Pour moi, c'est une des expressions des grandeurs de la société, de la condition humaine.
C'est vrai que souvent, on s'arrête, je suis bien d'accord avec vous, on s'arrête et à un moment donné, on se dit, dans ce monde, nous côtoyons Mozart, enfin, ou des Mozart, d'autres Mozart, et des Hitler. Et c'est vrai que c'est quand même très impressionnant.
Et avec le même cerveau, avec le même QI, etc. Je pense que ça a des résonances très, très profondes sur ce que nous sommes et sur notre liberté, notre degré de liberté. On dit, parfois d'ailleurs c'est une belle phrase, liberté que le crime on connaît en ton nom. Pourtant, Dieu sait si c'est beau, la liberté. Mais en même temps, on peut commettre des crimes avec la liberté. Donc, et ça, c'est la condition humaine.
Il est interdit d'interdire aussi, citez-vous ce fameux mot dans
de 68,
de 68, etc. Et alors, ce qui est très impressionnant dans le livre, il y a beaucoup de choses impressionnantes qu'il faut, c'est très, très lié. Vous avez votre analyse est vraiment très soutenue. Alors, par exemple, c'est de voir ce phénomène qui est quand même tout à fait inquiétant, c'est que beaucoup de jeunes brillants, d'ailleurs, vont vers les grandes écoles, mais au détriment de la recherche. Ils sont éloignés parce que on veut tout de suite les formater, les former pour une société d'action, de marketing, tout ce que vous voulez, mais au détriment d'une recherche fondamentale que vous défendez, que vous aimeriez bien récupérer un peu, comme d'ailleurs ces bonnes études littéraires classiques ou modernes, si vous voulez. Donc, c'est deux aspects, il y en a d'autres, bien sûr.
Bon, je vais être pas caricatural, mais un peu forcer le trait. les meilleurs bacheliers, les meilleurs lycéens sont happés par les classes préparatoires, puis les grandes écoles, les systèmes sélectifs. Y compris d'ailleurs dans les bacs technologiques, ce ne sont pas les classes préparatoires, ce sont les IUT, mais des systèmes sélectifs qui conduisent à des débouchés. Ces systèmes sélectifs ont de grandes qualités, mais ils ont un petit défaut, c'est qu'on n'y fait pas assez de recherche. Pas du tout, un peu, quelques établissements comme Polytechnique, peut-être HEC qui commencent, qui se réveillent et qui commencent à faire de la recherche, mais beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur sélectif ne font pas de recherche. Et donc on cultive ce paradoxe qui est très français et dommageable à terme pour notre économie, notre société, où l'élite du pays qui sort de ce système-là n'a pas de contact avec la recherche. Alors que dans tous les autres pays, que ce soit les pays anglo-saxons ou les pays d'Extrême-Orient, les meilleurs lycéens vont dans des universités où l'on fait, certes, on enseigne, on apprend à travailler, on apprend les méthodes, mais l'enseignement est nourri par la recherche. Malheureusement, en France, un professeur de classe préparatoire, et j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour les professeurs de classe préparatoire qui sont des gens de haute compétence, qui sont très pédagogues, qui travaillent beaucoup, mais compte tenu du fait que les programmes changent tous les ans, ils n'ont pas le temps de faire de recherche. Donc ce sont des gens, alors qu'on a des maîtres de conférences qui enseignent à des étudiants de première année, malheureusement qui ne sont pas à leur place et donc dont beaucoup vont échouer, et qui eux ont un doctorat, parlent plusieurs langues, sont normaliens, etc. On fait d'énormes efforts et continuent à faire de la recherche tout au long de leur vie, alors que ils n'ont pas le public qui, malheureusement, et je dis ça sans aucun mépris pour le public en question, pourrait bénéficier de cet enseignement de grande qualité. C'est là le paradoxe français. Donc, je pense qu'il faut repenser notre enseignement supérieur de telle façon à ce que on oriente correctement les jeunes vers des formations où ils ont des chances de réussite parce que ça correspond à leur capacité du moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont définitivement bloqués dans une filière professionnalisante, mais à un certain moment, il vaut mieux qu'ils aillent dans une filière professionnalisante, quitte à reprendre des études plus théoriques un peu plus tard à 25 ans, par exemple. Les gens qui reprennent à 25 ans sont souvent formidables à l'université. Ah, oui. C'est un grand plaisir d'avoir
maturité.
Maturité et motivation. Mais vous avez des gens qui sortent du bac, on se demande, eux-mêmes se demandent pourquoi ils sont là. Ils le disent d'ailleurs sans hésiter.
Nous arrivons au terme de cette première partie de notre émission avec le président Jean-Robert Pitt. Nous allons vous retrouver dans un instant. Merci pour le moment. Je suis très heureux de retrouver à cette antenne le président Jean-Robert Pitt de la Sorbonne Paris 4 et nous continuons ensemble notre entretien sur un livre extrêmement important de Jean-Robert Pitt, Stop à l'arnaque du bac aux éditions O 2007. Alors, président, vous évoquez dans ce livre énormément de thèmes. Et notamment, vous revenez quand même sur quelque chose, sur l'histoire. Vous m'avez fait penser à un tout petit peu, enfin, vous savez, une légère ressemblance, un peu à Max Gallo dans son approche de, qui est un très bon livre, L'âme de la France, qu'il a publié récemment.
Et oui, je partage avec lui.
Je partage un point avec lui, comme avec d'autres gens,
et ça dépasse les clivages droite-gauche dans notre pays, c'est l'importance de la nation. Je pense que notre pays doit redécouvrir la nation qui est le meilleur rempart contre le nationalisme, contre l'ignorance, contre l'égoïsme. La nation, c'est pour moi vivre ensemble dans la diversité. Et ça veut dire aussi tirer tout le monde vers le haut et essayer de recréer quelque chose de fondamental dans la vie politique qui est l'égalité des chances, pas l'égalité tout court qui n'a aucun sens, qui est une absurdité totale, qui est même dangereuse,
qui est impossible.
Oui, mais comme beaucoup de gens pense que c'est possible, il tombe assez facilement dans le sectarisme, voire le totalitarisme. Donc c'est l'égalité des chances qui est possible. Il faut essayer, autant que faire se peut, de donner le plus de chances à tout le monde de se tirer vers le haut, de donner le meilleur de soi-même.
La chance aux coureurs, d'une certaine façon.
Ça veut pas dire... Il y a des gens qui sont pas très battants et pas très coureurs, mais à qui il faut donner leur chance aussi. Donc c'est pas seulement d'essayer de sélectionner les meilleurs. C'est très facile à faire ça. Et notre système français est très doué pour ça. Ça c'est certain, qui sélectionne les meilleurs, du moins... Et les têtes bien pleines, c'est plus difficile de sélectionner les têtes bien faites. Et notre système est pas très très fort pour ça. je ne veux pas donner d'exemple trop précis pour ne vexer personne, mais une tête bien faite, c'est très très dur à choisir. Et les gens qui s'occupent de ce métier, les chasseurs de têtes, les directeurs de ressources humaines dans les entreprises, savent à quel point c'est dur de trouver des gens qui soient à la fois très bons techniquement, mais qui aient en même temps l'imagination dont on a absolument besoin, toujours, d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité, mais dans le monde contemporain, on a vraiment besoin de ça, de la créativité, de l'imagination. Oui, voilà, et il y a des lieux, bon, la France gâche des chances, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être créatif, imaginatif, et jouer notre rôle de sel de la terre dans le monde. En toute modestie, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais on peut rendre des services à la planète, je pense, la France peut rendre des services, mais...
Elle a rendu énormément de services.
Elle continue à rendre, mais elle pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut réformer notre système éducatif et redonner une colonne vertébrale à ce baccalauréat qui est une espèce de monument historique en péril, qui croule de partout, mais dont personne ne veut mettre le coup de pouce qui va le mettre par terre pour mettre autre chose de plus intéressant à la place.
Et ce que vous proposez, d'ailleurs, si vous voulez même en parler tout de suite, nous y reviendrons, ce que vous proposez est tout à fait pragmatique et intéressant. Que proposez-vous, Président ?
Moi, je propose d'abord de supprimer le bac comme premier grade universitaire, parce que ça, c'est un leurre total. Les universités ne jouent aucun rôle dans l'attribution du bac. Parfois, quelques universitaires acceptent de venir présider les jurys, mais ils ne font que faire des additions. Et en plus, les notes sont relevées systématiquement dans le cadre de commissions de contrôle et d'harmonisation. Donc, ce qu'il faut, c'est que le baccalauréat soit délivré par les équipes pédagogiques des établissements, qui sont bien assez compétentes pour le faire. La preuve, c'est que ce sont elles qui permettent aux élèves de passer de seconde en première, de première en terminale,
Le travail continue.
Ou de terminale en classe préparatoire, qu'elles nous disent tout simplement, oui, il a le niveau du baccalauréat ou pas. Il y a combien de profs de terminale qui sont atterrés quand ils voient que tel ou tel de leurs élèves à qui ils n'auraient jamais donné le baccalauréat se retrouve avec le baccalauréat, parfois avec mention, au début du mois de juillet. Pour un professeur qui aime son métier, c'est lamentable de voir ça. Un élève qui n'a rien fichu, qui a mauvais esprit, qui n'a fait aucun effort et qui se retrouve avec le baccalauréat, c'est casser le métier, c'est démoralisant. Et en plus, bon, comme on ne gagne pas quand même des 1000 et des 100 dans l'éducation nationale, si en plus le métier est dévalorisé à ce point-là, méprisé, dégradé par des pratiques de ce genre, c'est pas raisonnable. Et ensuite, on organise une orientation sérieuse. Ne l'appelons pas sélection, ça fait peur à tout le monde en France, le mot sélection. La sélection, elle se fait de toute façon à l'entrée dans la vie professionnelle.
Naturellement,
tout le monde le sait. Si on n'est pas bon, on rentre pas, on n'a pas de métier. Bon, tout le monde est persuadé que si on a un diplôme, même si le diplôme n'a aucune valeur, c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Bon, laissons les gens dans l'illusion. Ce qu'il faut, c'est orienter les jeunes vers les filières qui correspondent à leur goût, à leur choix, certes, mais aussi à leur capacité et aussi aux besoins du marché de l'emploi. Il faut quand même réfléchir à ça et arrêter de dire les entreprises, c'est le grand capital, de toute façon, il faut surtout pas les laisser participer à cette orientation des jeunes. Il y a un moment où c'est bien l'entreprise ou la fonction publique, peu importe, du côté du secteur public, qui dit, voilà, j'ai besoin de tant de personnes. J'ai besoin de tant de postiers, j'ai besoin de tant de comptables, j'ai besoin de tant d'informaticiens, bien sûr.
Président, il faut vous rendre hommage, et je vous rends hommage, parce que vous avez un vrai souci de conseil des étudiants qui arrivent
évidemment,
à l'université.
Ils n'en ont pas actuellement.
Ils n'en ont pas. Et le deuxième aspect où je vous rends hommage, entre autres, c'est vous tournez vers les entreprises et les relations entre les humanités, justement, et le travail en entreprise.
Mais oui.
Et ça, c'est très important.
L'entreprise a besoin de littéraires. L'entreprise a besoin de littéraires qui sont des gens qui savent s'exprimer. Normalement, un littéraire bien formé, c'est lire et écrire, c'est faire une note de synthèse, c'est lire rapidement. Et s'il a fait de la littérature ou de la philosophie, il a de l'imagination, donc de la créativité, ce dont l'entreprise a besoin. L'entreprise a besoin certes de techniciens qui connaissent très très bien les techniques, de l'informatique ou de l'ingénierie électrique. Bon, très bien, mais ça n'empêche pas d'ailleurs d'avoir de l'imagination, d'être un bon informaticien. Je pense quand même on est un meilleur informaticien.
Un
très bon exemple, c'est ce que nous dit notre collègue Laforgue. On est d'autant meilleur en mathématiques qu'on a une vraie culture littéraire. Et lui, c'est un défenseur, médaille Fields en mathématiques, défenseur du latin et du grec. C'est quand même intéressant.
On le sait bien qu'avec le latin et le grec, on a une langue.
Par exemple, en tout cas, je pense que mélanger la technique et les sciences dures, d'apparence plus utiles dans la vie industrielle ou économique, avec une culture littéraire, c'est fondamental. Donc, il y a une place pour le littéraire à condition qu'il soit de bon niveau. Il est évident que c'est pas un non-diplôme ou un mauvais diplôme littéraire qui peut donner un débouché intéressant. Les gens doivent absolument, vous l'avez rappelé il y a un instant, il y a un mot que j'utilise pas mal de fois parce qu'au fond, j'en ai à la fois souffert, ça demande des efforts, mais j'en ai bénéficié, c'est l'exigence. J'ai eu la chance d'aller dans des écoles qui étaient des écoles exigeantes. Je m'en félicite. Ça a l'air d'être un petit peu scrogneux de dire ça.
Ah non, je crois pas.
C'est pas un mot. C'est pas une chose facile à dire parce que on est encore, même 40 ans après, dans l'esprit 68, l'exigence est quelque chose d'aliénant, considéré.
Au fond, président, si je me permets juste d'intervenir, il y a vraiment deux choses terribles dans notre pays, et c'est vrai, on se rend compte, il suffit aussi de lire Max Gallo, c'est cette espèce de défaitisme de 1940, le vichisme, et vous rappelez quelque chose quand même qui vraiment nous frappe au cœur, que les Français ne veulent pas regarder les choses en face, souvent le règne de l'irresponsabilité, pour certains évidemment, et donc le vichisme de notre société. Ça, vous l'utilisez carrément.
Oui, les Français sont des autruches, et donc le syndrome de Vichy existe toujours aujourd'hui. C'est-à-dire, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Enfin, c'est un peu avant Vichy, ça, mais c'est cette idée. On ne regarde pas la réalité en face dans notre pays.
Pourquoi notre pays
est en faillite financière, on le sait bien. Il y a une dette gigantesque. La sécurité sociale est en déficit. Mais ça fait rien, on ne regarde pas. Il y a trop de chômeurs, etc. Mais surtout, on ne se pose pas la question. Le bac ne vaut rien. Il y a un chômage des jeunes considérable. C'est ce qui est lamentable pour cette jeunesse, quand même.
Mais alors, est-ce que là, vous n'allez pas plus loin encore, sans même trop le dire dans le livre, à ce moment-là? Mais quand nous regardons la société américaine, c'est un peu la même chose aujourd'hui d'une certaine façon, enfin avec des différences quand même notables. Mais est-ce que nous, avec nos modèles occidentaux, nous ne commettons pas certaines erreurs que ne commettent pas justement les sociétés asiatiques peut-être?
Les sociétés asiatiques que je fréquente beaucoup depuis 30 ans sont restées assez marquées avec, ça bouge, hein, c'est ça, il y a les influences occidentales, mais assez marquées par les principes du confucianisme. Si je résume la pensée de Confucius, c'est, qui est d'ailleurs une pensée qui est aussi dans le christianisme, donne le meilleur de toi-même. Ouais. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. C'est profondément ancré dans le confucianisme. Le problème, c'est que nos sociétés marqué par la tradition chrétienne, c'est évident, même pour les gens non-croyants, athées, tout ce que l'on veut, il est évident que notre société est marquée par les racines chrétiennes, ont perdu un peu ça, cette idée, donne le meilleur de toi-même, et j'allais ajouter, et tu verras, tu t'en porteras mieux. Et même sans penser à l'au-delà, tu pourras te regarder mieux dans la glace.
C'est vrai.
Et c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux jeunes, dépassez-vous. D'ailleurs, en plus, ils en sont au fond d'eux-mêmes convaincus, parce qu'ils admirent tellement les sportifs, les grands, les gens qui se dépassent. Un navigateur qui fait le tour du monde à la voile en un temps record tout seul, celui qui vient d'arriver.
Mais vous le dites aussi très très bien dans le livre, je ne sais plus à quelle page à vrai dire, dans plusieurs pages, mais le problème du sens et le problème des racines, et vous remarquez que depuis une quarantaine d'années, ce problème du sens pose problème. Mais alors est-ce que nous pensons à nos pères, nous pensons à certaines personnes auxquelles nous songeons avec beaucoup d'émotion, nos proches, est-ce que ces gens-là étaient très loin de l'abondance captive? Et c'est, vous savez, c'est un concept qui est repris à Miguel de Unamuno, le sentiment tragique de la vie, etc. Et ce concept d'abondance captive, est-ce que nos jeunes ne sont pas vraiment dans la souffrance parce qu'ils sont dans l'abondance qui est une abondance captive?
Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'argent. L'abondance en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Je suis pas d'accord pour dire il faudrait les faire souffrir, une bonne guerre.
C'est ce qu'ils disaient en 68, en plaisantant.
Il leur faudrait une bonne guerre. Bien sûr que non.
C'est pas ce que je voulais dire.
On ne peut pas penser que seul le malheur, l'épreuve, la souffrance est éducative. C'est parfois le cas et souvent le cas. Parfois, c'est destructeur. Il y a des gens qui ne supportent pas les épreuves. Je ne souhaite évidemment pas ça. Et tant mieux s'il y a un peu plus d'abondance que qu'il y a 50 ans, quand nous étions jeunes. Tant mieux pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais au moins qu'elle en profite pleinement. Je trouve qu'elle n'en profite pas assez pour cultiver ses vraies valeurs profondes et pour, au fond, éprouver un sentiment d'exaltation, d'être en ce bas monde et d'avoir des choses à faire et des projets à mettre en œuvre, des objectifs à conquérir.
Vous avez utilisé, président, ce bas monde, donc dans une optique un peu chrétienne, là, si, ou catholique.
Qui n'engage que moi, mais même pour des agnostiques ou des athées, je pense que être en phase avec soi-même, être en accord avec soi-même, c'est quand même un objectif qui est au cœur de l'analyse psychologique et psychanalytique d'aujourd'hui. Donc, en dehors de toute question religieuse et de perspective spirituelle, parce que tout le monde a une spiritualité, même quand on n'est pas croyant. Je pense que la spiritualité va bien au-delà de la question de la croyance en Dieu ou pas. Le confucianisme n'est pas du tout croyant. Il n'a aucun rapport avec la religion. C'est pas une religion. C'est une vraie philosophie. Donne le meilleur de toi-même. Dépasse-toi.
Je crois que ce que vous dites là est fondamental. Alors, quand j'ai lu et relu cette page 133, il y a beaucoup de pages extrêmement intéressantes, et je me suis mis à écrire. Arrivé à la page 133, on se dit qu'il y a quand même quelque chose d'incompréhensible dans cet état de choses. Je parle de cette question du bac. Ne peut-on y voir Je me suis posé la question, un complot d'une gauche manipulatrice qui protège, ça vient de moi, hein, qui protège son trésor de guerre, allié consciente ou inconsciente avec une droite, soit qui laisse faire, dépassé par les situations, soit qui est machiavélique et qui croit y gagner en laissant une population paupérisée livrée à des directeurs de conscience de gauche qui n'ont en vérité pas de conscience. J'ai un peu poussé, hein.
Oui, mais... parce que je pense que là, encore une fois, les débats actuels dépassent la droite et la gauche, et il y a beaucoup de gens de gauche qui ont compris qu'il y avait une vraie crise. D'ailleurs, la gauche est en pleine recomposition. Aujourd'hui, la gauche,
tout à fait. Elle est
quand même, je dis pas que la droite va bien. Non. Mais la vie politique en général est en pleine recomposition. Et d'une certaine manière, tant mieux, j'espère qu'il sortira de tout ça quelque chose d'intéressant pour notre pays, et en particulier un peu de réalisme et de pragmatisme. C'est-à-dire qu'enfin, on regarde les problèmes et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Et qu'on ne retombe pas tout de suite dans une ornière idéologique en disant, puisque je suis de gauche, je dois faire comme ça, puisque je suis de droite, je dois faire comme ça. Non, je pense que ce débat est réellement dépassé.
Oui.
Réellement,
on le sent.
Réellement, on le sent, tant mieux, mais on a encore du travail à faire pour le dépasser complètement. Puisque vous m'entraînez sur le terrain politique, je crois que sur cette question de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, la droite comme la gauche ont peur d'y toucher. Parce que on a toujours en France, alors ça, là, je vais être très, très dur, on a toujours en France cette peur de la rue et cette idée que si l'on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut immédiatement descendre dans la rue. Il n'y a pas de négociation. On descend dans la rue. Et donc, c'est très facile de mobiliser la jeunesse, en particulier les étudiants de premier cycle, hein, pas les étudiants de master et doctorat, ils descendent pas dans la rue. Et les lycéens, sur n'importe quel slogan, rappelez-vous le CPE 2006, ont fait descendre facilement 1 million de jeunes dans la rue. Et là, aucun gouvernement ne peut résister à ça.
Ce qui veut dire, Président, avec votre franc-parler, et je dois dire un franc-parler, et une analyse tout à fait remarquable, je veux dire, c'est une radiographie comme je n'en ai pas lu, hein, franchement, donc vous apportez énormément à notre société, vous ne pourriez peut-être pas être ministre de l'Éducation, parce que ça serait un plus pour notre pays, mais pourriez-vous l'être ?
Je n'ai jamais pris de carte d'un parti politique, je n'ai rien contre les partis, je suis bien content qu'ils existent, parce que des partis où n'existent pas sont très inquiétants, ou quand il n'y en a qu'un seul, c'est très inquiétant. Cela dit, je n'ai jamais milité dans un parti politique, j'ai l'impression, en étant dans les fonctions que j'exerce actuellement, de faire de la politique au sens originel du terme de la gestion des affaires de la cité. Donc, je le fais du mieux que je peux. On me colle volontiers, vous l'imaginez, des étiquettes politiques.
Oui.
Je peux vous assurer que je me sens totalement libre de mes options. J'assume ce que j'écris. Je me suis aperçu que c'est des choses que je pense depuis longtemps, que je ne disais pas trop jusqu'à maintenant, que ça me faisait pas plus d'ennemis que j'en avais auparavant, plutôt même des amis imprévus. Des gens qui se disent, ah, tiens, c'est pas si mal ce que vous dites, j'aurais pas pensé ça, ou j'aurais pas osé le penser moi-même, ou j'aurais pas osé le dire.
La science,
je pense qu'il y a un moment, dans un pays comme le nôtre où il faut dire les choses, et aussi dire, et je mets un bémol, dire les choses, disons, si vous me donnez un argument très fort pour me dire que je me trompe, je suis prêt à changer d'avis. Et pour moi, c'est ça le débat démocratique, le débat politique, plutôt que de s'enferrer dans des idéologies, dans des certitudes qui n'en sont pas, dans une vision de ce qu'on pourrait appeler des intérêts, des avantages acquis, qu'on ne voudrait pas lâcher de peur, etc. Arrêtons d'avoir peur. Allons de l'avant, prenons des risques. Il faut réhabiliter l'exigence, le sens de l'effort, le sens du risque, et on y trouvera du plaisir et de la joie de vivre. Surtout que je dis à la jeunesse.
Je vous remercie beaucoup, Président. Vous savez, le président Jean-Robert Pitt, président de la plus prestigieuse université, est un homme, il suffit de le lire, un homme intègre. Je crois qu'en effet, lorsqu'on est un bon enseignant, il faut pouvoir se regarder dans son miroir, parce que ne pas se tromper de chemin. Je crois que vous nous donnez beaucoup de courage, parce que c'est vrai que les 30 dernières années, pour nous tous, enseignants, professeurs, universitaires, ça n'a pas été toujours facile. Et je crois que ce livre est un livre vérité et qui nous permet de maintenant, je dirais pas de tourner la page, mais d'aller de l'avant. Et donc, je conseille vivement, c'est un livre remarquable, chers amis de France et du monde entier, notamment nos amis américains, car vos 10% d'auditeurs aux États-Unis, lisez Jean-Robert Pitt, Stop à l'arnaque du bac aux éditions O, livre remarquable. Merci. J'étais avec le président Jean-Robert Pitt.